Alors nous souhaitons la bienvenue à tous les êtres de lumière collaborant avec nous, tous les êtres de lumière présents dans la forme physique et sous d'autres formes vibratoires. Et nous accueillons cette collaboration dans le triangle d'or qui est le son, le souffle et la lumière. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons la bienvenue au chariot blanc, à ce véhicule de conscience, à cette conscience supérieure, à cette réflexion de notre propre conscience supérieure.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors ce soir, nous acceptons votre collaboration afin de mieux se situer par rapport à l'énergie monétaire, l'énergie de l'argent et la spiritualité.
Et nous tenterons la chance de transformer cette énergie rouge qui est dans cette pièce en énergie violet avant que vous ne quittiez. Alors, nous allons d'abord commencer par un commentaire d'ouverture. Un jour, il y avait un homme qui possédait un laboratoire. C'était un excellent chimiste et un bon chercheur. Alors, avec le courant électrique, la chaleur et le froid, il avait réussi à inventer une petite machine qui lui suffisait, même si elle était bien petite, à créer de l'eau. Alors il était allé trouver les autorités de son village pour demander s'il voudrait bien lui permettre de faire le commerce de l'eau et de le privilégier au lieu d'acheter l'eau des gens qui venaient de d'autres pays extérieurs. Alors les autorités avaient signé avec lui un contrat. Mais lorsqu'ils eurent possédé une grande partie de tout ce qui avait été créé, ils détournèrent le contrat, détournèrent les fonds monétaires et ne payèrent pas l'homme. Alors celui-ci entra dans une grande colère, il retourna dans son laboratoire et il se dit « Je vais inventer autre chose, mais cette fois je serai précautionneux. » Comme par hasard, quelques 6 mois plus tard, il y eut une sécheresse. L'eau commençait à manquer. Déjà, depuis plusieurs semaines, la pluie ne voulait pas tomber. La rivière s'asséchait. Les gens des autres villes ne voulaient plus vendre leur eau parce qu'ils disaient qu'ils en avaient besoin pour eux-mêmes. Et alors, les gens de cette ville étaient privés. Les autorités se souvinrent de cet homme qui travaillait dans son laboratoire. Et il se dit, peut-être si nous lui donnons une somme d'argent importante, il se taira et nous irons devant lui, nous nous excuserons, nous ferons toutes sortes de choses pour qu'il ne voie pas notre détour, mais nous essaierons de le convaincre de créer de l'eau. Alors, ils l'appelèrent. Celui-ci dit, il me ferait bien plaisir de vous recevoir. Cependant, j'aimerais savoir devant combien de personnes je me retrouverai. 7 personnes, lui dit le chef du groupe. Ce n'est pas si nombreux, vous n'avez pas à craindre. Je ne crains rien, dit l'homme. Alors, le jour convenu, il les reçut dans sa maison. Et il leur dit, je veux bien écouter ce que vous avez à me demander. Alors ils commencèrent par lui faire des compliments, lui disant qu'il savait bien comment cet homme avait du talent, comment il était généreux, comment il prendrait en pitié les petits-enfants qui n'avaient pas d'eau à boire, les gens qui étaient malades dans les hôpitaux, les vieillards et ainsi de suite. L'homme les regardait jouer leurs cartes et il ne disait rien. Mais tout à coup, on sortit une feuille de contrat et on lui proposa de signer le contrat. « Avant de signer ce contrat, dit l'homme, je voudrais bien vous offrir un breuvage. » Alors les autres étaient très heureux, se disant, « Nous allons avoir un verre d'eau à boire. » Alors l'homme alla dans sa cuisine et il rapporta un cabaret sur lequel il y avait 8 verres. Dans un, il avait mis du vinaigre avec de l'eau. Dans l'autre, toujours avec de l'eau, il avait mis un poison. Dans l'autre, il avait mis l'essence de vanille. Dans l'autre, il avait mis un parfum de rose. Dans l'autre, il avait mis un alcool concentré, et ainsi de suite, et il n'avait gardé qu'un seul verre d'eau pure. Il le prit pour lui-même et dit aux gens, « Si vous voulez vous servir. » « Mais c'est du poison que vous nous servez, cher monsieur. Comment pouvez-vous ainsi gaspiller l'eau ?» Alors l'homme les regarda et il dit, « Je voulais que vous compreniez un seul élément. Tout ce qui est bon peut être rendu mauvais, et tout ce qui est mauvais peut être rendu bon. Je vous dirai que je ne signerai pas ce contrat, mais je fabriquerai de l'eau, et ce que je ferai, j'irai voir les gens qui sont pauvres, ils deviendront mes distributeurs, et je les paierai. J'en engagerai d'autres pour aller chercher des contenants, d'autres pour retourner dans les familles chercher les contenants vides. Et alors, je vous dis que toute la ville aura toute l'eau dont elle aura besoin, mais je ne signerai aucun contrat avec vous. » Les autorités partirent en colère, en se disant, cette fois, nous ne pourrons pas l'exploiter. Et la légende dit que ce qui se passa dans cette ville, c'est que les gens se rapprochèrent les uns des autres. Ils étaient heureux de collaborer et de travailler ensemble à construire cette industrie qui permettrait à tout le monde d'en profiter. Et nous vous dirons, les autorités de la ville démissionnèrent parce qu'on n'avait plus besoin de cette forme gouvernementale. Et c'est le commentaire que nous avons pour vous aujourd'hui. Déduisez tout ce que vous voudrez. Et ensuite, nous vous dirons, prenez une décision par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez faire avec l'argent. L'argent, c'est comme un verre d'eau. Vous pouvez y mettre du poison, vous pouvez y mettre de la boue, vous pouvez y mettre un parfum de rose, et vous pouvez y mettre des glaçons et la boire dans sa fraîcheur. Alors l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qui peut servir au pouvoir. C'est une énergie qui peut servir à la corruption. C'est une énergie qui peut servir à l'entraide, à la libération psychologique, qui peut servir à permettre à des gens d'être plus ouverts avec leurs frères, avec leurs amis. Ce n'est pas une énergie qu'on doit posséder et garder pour soi. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler, parce que lorsqu'elle est emprisonnée, nous vous dirons qu'elle vous garde prisonnier vous-même. Alors, vous avez demandé dans le thème de ce soir de relier l'argent à la forme spirituelle. D'abord, il faudrait vous demander à chacun d'entre vous de définir ce qui est spirituel. Est-ce que c'est être spirituel que d'avoir une petite boutique avec des cristaux au coin de la rue? Est-ce que c'est être spirituel que de peler des pommes de terre dans sa maison? Est-ce que c'est être spirituel que d'être un avocat ou d'être un notaire ou d'être un médecin ou d'être tout simplement une bonne mère de famille? Qu'est-ce que être spirituel? Nous vous dirons, tout peut devenir spirituel. Tout peut devenir bon, comme tout peut devenir mauvais. Alors nous vous dirons, si pour vous, être spirituel, c'est être capable de vous payer des éléments qui vous permettent d'arriver à des degrés ou des niveaux de conscience qui vous permettent d'évoluer et de mieux vous connaître et ensuite de devenir créateur et d'apprendre le partage, nous vous dirons, l'argent peut servir à ceci. Elle peut servir aussi à acheter le couteau qui permettra de tailler le pain et de le distribuer à vos frères, ou avec ce même couteau, de tuer votre frère. Alors, rien n'a à voir avec l'argent, tout a à voir avec l'intention que vous avez à l'intérieur de vous. L'argent, c'est une projection de votre énergie. Si vous en êtes privé, c'est parce que quelque part, vous avez quelque chose à regarder à votre égard. Comment vous privez-vous de l'amour que vous devez avoir pour vous-même? Et ainsi de suite. Alors, nous allons profiter de l'occasion, en répondant à vos nombreuses questions, de rendre plus précis cet enseignement.
Alors, la première question, Si l'argent est le miroir intérieur, comment se fait-il que nous en subissons tous les conséquences? Est-ce possible de se détacher totalement de la conscience monétaire collective?
Ça, c'est une question lourde de sens. D'abord, dans un premier temps, lorsque vous dites « Est-ce que c'est le miroir de notre réalité intérieure? » Nous vous dirons quelque part « Oui ». Si vous croyez en vous-même, en votre force, en votre pouvoir, en votre capacité créatrice, en votre droit en l'abondance, en la générosité de l'univers, en la conscience que vous avez, nous vous dirons, vous ne manquerez jamais de bien. Même si c'est bien, ce n'est pas d'avoir 3 voitures et de vous payer 5 voyages par année. Car nous vous dirons que la richesse, c'est bien discutable. Quelqu'un peut se penser très riche, alors que l'autre, s'il possédait la même richesse, se croirait le plus pauvre en ville. Alors, nous n'allons pas établir ici des barèmes de la richesse et de la pauvreté. Mais nous vous dirons que l'abondance, sous toutes ses formes, vient à celui qui croit en lui-même, à celui qui utilise son potentiel créateur. Mais si vous avez développé des dépendances, et nous vous dirons que ce pays, le Québec, a beaucoup développé de dépendances depuis sa naissance, nous vous dirons qu'il est né d'un spermatozoïde anglais et d'un ovule français. Et depuis cette naissance, nous vous dirons qu'il a gardé beaucoup de dépendances. Il a beaucoup dit de lui-même qu'il était né pour un petit pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu prononcer ceci dans sa maison? Alors, tant que vous croyez que vous êtes né pour un petit pain et que vous n'avez pas droit à une abondance juste, nous vous dirons, à ce moment-là, l'abondance ne peut pas venir à vous. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, « Je te hais et je te juge. Si tu veux venir coucher chez moi, il vous dira sûrement, « J'ai trouvé une auberge ailleurs. » Alors, vous avez aussi jugé l'argent. Vous avez jugé les gens qui étaient riches. Combien de fois n'avez-vous pas dit dans le secret de votre cœur, « S'il est riche, fort probablement qu'il a volé ou qu'il a triché. » Alors, si vous avez eu ces jugements sur les autres, ne vous étonnez pas de payer la contrepartie. Vous pouvez, bien sûr, vous libérer de la conscience globale, mais ça, c'est très difficile et vous devez être un initié pour être capable de vous détacher, ainsi que vous le demandez dans cette question, de la conscience globale. Car cette conscience globale, elle est très puissante et vous l'avez choisie aussi. Vous avez choisi le pays dans lequel vous deviez naître. Vous avez choisi vos parents. Vous avez choisi la ville où vous êtes. Vous avez choisi votre nom. Enfin, vous avez tout choisi puisque vous êtes le créateur de votre réalité. Alors, puisque vous avez choisi de faire partie de cette conscience collective, il faudrait que vous soyez très puissant pour être capable de vous y soustraire.
Qu'est-ce que l'on doit comprendre sur l'endettement du Québec, de la France ou de d'autres pays, sur leur appauvrissement et sur l'écart grandissant entre les riches et les pauvres? Qu'en seront les conséquences? Merci.
D'abord, nous vous avons parlé, il y a déjà 6 ou 7 mois, qu'il y aurait 3 grandes vagues. Nous avons annoncé ceci et vous allez les voir déferler de vous-même. Nous avons dit qu'il y aurait une vague quant à la maladie, une quant à l'énergie sexuelle et une quant à l'argent. Sachez bien que vous n'y échapperez pas. Ceci ne veut pas dire que tout le monde va se noyer dans la vague, mais nous vous dirons que la vague sera forte et que vous avez besoin de vous solidifier à l'intérieur de vous et nous dirons de sortir de vos jeux et de vos comportements répétitifs pour être capable d'établir en vous l'épée de Michaël. Si vous arrivez à créer cette force et cette puissance à l'intérieur de vous, il n'y a pas une seule vague qui réussira à vous jeter par terre. Cependant, nous avions aussi recommandé que dans les temps présents, vous vous regroupiez par petits groupes, nous vous dirons, pour vous solidifier et vous supporter les uns des autres lorsque la vague viendra et qu'elle sera plus forte. Lorsque vous dites, qu'est-ce qui se passe avec le pays du Québec ou le pays de la France qui s'appauvrissent toujours? Il n'y a pas que le Québec ou la France qui s'appauvrissent et qui ont des dettes. Tout le Canada a des dettes. Les États-Unis d'Amérique ont des dettes. Tous les pays, ou presque, ont des dettes. Il y a des pays qui en ont moins, qui sont, par exemple, comme le Japon. Et nous vous dirons, si ce pays n'a pas de dettes, c'est parce qu'il a fait travailler les gens dans un régime très sévère. Et il les a encadrés dans cette grande rigidité. Nous ne vous dirons pas que cet argent va leur permettre une liberté aussi grande que vous pourriez le croire, car il y a d'autres éléments. Lorsque vous avez vu il y a quelque temps, par exemple dans ce pays, un tremblement de terre qui a jeté par terre des édifices qui devaient être surprotégés contre les tremblements de terre et que vous avez vu ceci s'écrouler, il peut en arriver de même de la monnaie. Alors, à quoi servira cette grande sécheresse? Elle servira à vous unir les uns aux autres. Elle peut servir à créer la guerre et elle peut servir à, nous dirons, rassembler les co-créateurs, si nous pouvons dire ainsi, pour que vous puissiez utiliser tout votre génie et tout votre pouvoir à développer d'autres formes que le système monétaire. Il y a déjà eu d'autres formes que le système monétaire. Autrefois, lorsque quelqu'un allait consulter un sage, jamais il n'y allait sans apporter du blé ou un agneau, parce qu'il savait que ceci était justice, et pour lui et pour le sage. Il recevait la parole sacrée, et en échange, il donnait de ses biens. Nous vous dirons, il se pourrait que ceci se reproduise à nouveau, mais ce n'est pas pour maintenant. D'abord, il y aura un grand choc. De plus, nous vous dirons, si vous êtes endetté, s'il y a une dette commune, c'est parce qu'il y a des dettes individuelles. Et il y a des dettes individuelles parce que l'ego était très puissant. L'ego qui se compare aux autres, qui veut avoir une maison aussi grosse, une voiture aussi puissante, des voyages aussi nombreux, et ainsi de suite. Alors, toute cette comparaison a fait que vous deviez posséder autant que votre voisin et vous avez dilapidé vos biens. Personne ne vous a obligé à faire ceci. Cependant, nous vous dirons que cette vague servira à vous détacher de la matière et à vous attacher à la matière réelle, celle que vous ne voyez pas encore.
La prochaine question, elle en regroupe deux. Je vais vous mentionner ces deux volets-là. La première, c'est « J'aimerais être éclairé sur notre part de responsabilité sur les patterns de manque d'argent qui durent depuis des années. » Et la deuxième partie, c'est « Il me semble que l'inquiétude que j'ai par rapport à l'argent est seulement l'expression du manque de conscience que Dieu est tout en tous. » Alors, comment développer cette confiance en la Providence?
Nous vous dirons d'abord en ayant la conscience que vous avez tout de suite. Vous demandez si vous avez participé, bien sûr, et chaque fois que vous avez une pensée d'inquiétude monétaire, vous participez à ce que la vague soit plus forte. Chaque fois que vous avez une pensée comme quoi l'univers ne peut pas vous priver de rien, à ce moment-là, vous créez d'autres formes d'égrégores qui peuvent être aussi puissants que les premiers et qui peuvent ralentir la vague. Alors, nous vous dirons, si vous croyez en vous-même, si vous êtes capable de vous solidifier avec vous-même, vous libérez personnellement de toute dépendance, dépendance physique, dépendance émotionnelle, dépendance intellectuelle, dépendance spirituelle, dépendance à tous les niveaux. Nous vous dirons, à ce moment-là, vous allez créer cette abondance. Qu'est-ce que veut dire Être indépendant. Être indépendant veut dire avoir la capacité d'aller chercher ce qui est extérieur à vous, de l'amener dans votre laboratoire et de ne garder que ce qui est bon pour vous et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Oui, vous pouvez tous ensemble. Imaginez que tous ensemble, vous partez ce soir et vous ne dites plus jamais « J'ai des dettes, j'ai peur de manquer d'argent, je suis né pour le petit pain, il y a du danger à ceci ou à cela, que va-t-il nous arriver ?» et que vous chassez ces pensées sombres et que vous les remplacez par « Il y a capacité de créer une liberté, de créer une autonomie, de créer une abondance qui soit tellement large et tellement grande qu'elle puisse nourrir tous les frères sans que personne n'ait de surplus, mais sans que personne ne s'inquiète jamais. Alors, la vague sera plus douce.
Certains instructeurs demandent une contribution volontaire en tant que rémunération. D'autres demandent 350 $ ou plus pour sensiblement le même genre de conférence ou de séminaire. Y a-t-il une meilleure voie vers la lumière que l'autre?
Nous vous dirons que la voie, c'est vous. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas celui qui vous demande l'argent. C'est votre jugement, c'est votre discernement qui est la voie. Nous vous dirons, vous pouvez aller voir un avocat et qu'il vous demande 100 $ de l'heure. Vous pouvez aller en voir un autre et qui vous demande 1000 $ de l'heure. Nous exagérons volontairement. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez décider d'aller voir l'un ou d'aller voir l'autre. Il se peut qu'en allant voir celui qui demande 100 $ de l'heure, vous ayez un service inférieur. Mais il se peut aussi que vous ayez un service supérieur. De même avec celui qui vous demande 1000 $ de l'heure. Mais comment saurez-vous? Vous saurez uniquement lorsque vous aurez expérimenté. Alors, utilisez votre jugement, utilisez votre discernement et voyez ce que vous, il vous convient de vous créer pour vous-même.
Je semble toujours m'endetter quand je ne prends pas le temps de m'arrêter à des choses qui me semblent tellement terre à terre. Est-ce que la gestion de l'argent sert à nous grandir, c'est-à-dire à nous enraciner?
Nous vous dirons que la gestion de l'argent sert à vous donner un miroir de comment vous gérez vos énergies. Si vous n'arrivez pas à gérer votre portefeuille et que c'est l'impulsion ou l'émotion qui gère votre portefeuille, il en est de même de vos autres énergies. Alors, utilisez ce miroir pour devenir plus conscient et pour évoluer davantage. C'est simple, n'est-ce pas? Et c'est compliqué en même temps, parce qu'il est plus facile de compter des billets dans un porte-monnaie que de regarder avec vérité et avec transparence où vous en êtes par rapport au jugement que vous portez sur les autres, par rapport aux peurs que vous entretenez, par rapport, nous dirons, vous connaissez tout ce tralala. Alors, il est plus difficile d'aller regarder dans votre jardin intérieur, voir comment vous gérez vos énergies, que de compter les sous de votre porte-monnaie. Nous voudrions poser une question et demander à la personne qui est dans cette pièce, qui un jour n'a pas eu de gîte, n'a pas eu le couvert, n'a pas eu un toit ou être abrité, qu'elle se lève debout. Les pauvres ne sont pas si nombreux alors dans cette pièce. Vous avez d'autres questions?
Oui. Alors, bonsoir au chariot blanc. La vie est pour moi une encyclopédie dans laquelle je me perds au niveau monétaire, besoin d'abondance. Je travaille avec l'énergie depuis 3 ans, mais j'ai réussi à dépenser mes économies et à me créer des dettes. Alors, ce que je me demande, suis-je à ma place? Est-ce que Est-ce de l'entêtement de ma part? Voilà. Alors, je sais que j'ai la réponse à l'intérieur de moi, mais j'aimerais me faire éclairer un peu plus. Merci.
Bien sûr. Alors, nous allons ouvrir l'encyclopédie à la bonne page. Et nous allons vous dire, qu'est-ce qui vous a motivé à aller travailler en énergie? Est-ce que c'était pour devenir plus conscient de votre réalité personnelle? Est-ce que c'était parce que c'est à la mode? Est-ce que c'était parce que vous vouliez faire de l'argent? Quelle était la motivation profonde qui vous a amené dans ce champ d'action? C'est là qu'il faut poser la question véritable. Ce n'est pas au sujet de l'endettement, c'est au sujet de la motivation. Si vous travaillez en énergie pour changer les autres, alors l'argent n'entrera pas chez vous. Mais si vous travaillez en énergie pour vous transformer vous-même, nous vous dirons l'argent dont vous aurez besoin, et soulignez ceci dans votre encyclopédie, l'argent dont vous aurez besoin sera là.
Alors, la prochaine question, c'est comment réagir quand on se rend compte que quelqu'un nous a abusé, que quelqu'un a abusé plutôt de notre confiance et de notre argent, et que pour obtenir justice, on risque de se rendre aux tribunaux. Entre parenthèses, on mentionne, c'est dans une situation de vie de couple qui n'a pas marché.
Alors, nous vous dirons, cette vie de couple, elle est un miroir d'une partie de votre réalité, c'est-à-dire d'une guerre intestine à l'intérieur de vous. Alors, comme vous êtes une personne sage, vous vous créez une situation catastrophique pour apprendre qui vous êtes et pour retourner véritablement dans votre maison intérieure. Alors, vous vous créez un conjoint qui vous abuse, une situation qui vous exaspère, que vous pouvez recréer si vous ne la comprenez pas, mais que vous pouvez aussi ne pas recréer si vous comprenez que personne, jamais personne, et nous savons que les cheveux vont se dresser, personne n'a le pouvoir de vous tricher, excepté si dans l'énergie, vous avez autorisé ceci, soit pour régler un aspect karmique, ou soit pour apprendre une leçon de vie pour vous-même. Alors, si vous prenez tous ces éléments, que vous retournez dans votre maison et que vous dites « Où est-ce que moi je me triche? Où est-ce que moi je me trompe sur moi? Où est-ce que moi je garde contre moi de la colère? Où en moi il y a une porte qui est fermée à moi-même? » Alors, nous vous dirons que vous allez faire un bond qui vaut qu'il n'y a pas un chèque qui pourrait rembourser.
J'ai toujours de la difficulté à me faire payer pour mon travail. J'ai l'intuition que ce malaise a un lien avec le détachement de l'ego spirituel que je ne peux savoir. Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plaît, et me suggérer un moyen pour m'aider dans ce processus de détachement? Merci beaucoup, je vous aime.
Nous vous dirons, il y a, dans votre cas, une question de processus de détachement, mais il y a aussi un autre processus qu'il faudrait regarder. D'abord, dans un premier temps, vous avez difficulté à vous faire payer parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous-même. Vous ne croyez pas que vous valez ce que vous demandez. Ça, c'est le premier point. Secondement, lorsque vous aurez établi cette confiance en vous, vous ne serez pas gêné de demander un échange énergétique. Lorsque vous donnez un traitement, si vous le donnez en toute conscience, en toute vérité, avec ce grand désir à l'intérieur de vous d'évoluer et de comprendre à travers ce travail comment vous vous transformez vous-même et que ce travail, il n'est fait que pour votre transformation intérieure, alors votre focus ne sera pas sur l'argent. Actuellement, votre focus, il est sur l'argent. Alors, il déplace le focus de la transformation intérieure. Mettez le focus sur votre transformation intérieure et l'argent va venir d'elle-même.
Comment savoir à ce moment-là si nous chargeons tel prix que ce n'est pas l'ego qui essaie de s'infiltrer? Comme si je vaux autant que ça.
Alors, nous vous dirons, l'ego, lui, il est régi par le mental et il est régi par l'émotion. Mais si vous vous placez en état de méditation et que là, vous contactez votre âme supérieure et que vous dites, je veux la justice pour mon frère et la justice pour moi-même. Et qu'après avoir demandé cette justice et pour l'un et pour l'autre, vous établissez un prix, alors ne revenez pas avec vos questions d'ego. Dites, c'est ceci que je demande et je sais qu'en échange, je vais recevoir un enseignement. Et si vous demandez trop cher, les gens vous le diront. Si vous ne demandez pas assez cher, ils ne vous le diront pas. N'est-ce pas? Ils vous diront que vous êtes un bon thérapeute, que vous êtes généreuse, que c'est ainsi que cela doit se passer, qu'on ne doit pas demander d'argent pour des choses spirituelles. Et alors, quelque part, ils ont raison. Mais si vous, l'argent est pour vous, justice faite à vous-même, et que le traitement que vous donnez est justice faite à l'autre, alors vous vous retrouvez devant la même question qui était posée à Jésus lorsqu'il répondit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors rendez à votre Dieu intérieur toutes les formes d'abondance qui ne soient pas que l'argent. Et nous vous dirons « Enlevez de votre tête que seul le mot « abondance » correspond au mot « argent ». Est-ce que le bonheur ne vaut pas de l'argent aussi, ou beaucoup plus que l'argent? Est-ce que la paix intérieure, la joie, la sérénité, la libération ne sont pas des formes d'abondance merveilleuses qui vous sont offertes par l'univers?
Y a-t-il des mantras pour emmener de l'argent à nous?
Nous vous dirons, vous pouvez juger cette question, mais ne jugez pas la personne qui l'a posée. Et observez bien, lorsque vous avez entendu la question, s'il n'y avait pas un tout petit jugement dans votre énergie. Nous vous dirons, chantez des mantras pour contacter votre âme. Chantez des mantras pour apprendre la conscience. Chantez des mantras pour être en contact avec toutes les âmes qui cherchent la lumière et la conscience. Et nous vous dirons, par surcroît, l'argent vous viendra. Ne chantez pas les mantras directement pour l'argent, mais sachez qu'elle viendra. Lorsque Jésus a donné la meilleure recette pour devenir riche. Il a donné une recette, le saviez-vous? Vous souvenez-vous dans l'Évangile, lorsqu'il a dit, « Si vous devenez comme des enfants, vous entrerez dans le royaume. Et celui qui ira dans le royaume intérieur, cherchez d'abord le royaume, disait-il. Et tout le reste, il n'a pas dit une partie du reste. Il a dit, tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais dites, où mettez-vous votre foi? Dans l'argent ou dans ce royaume intérieur? Alors cherchez le royaume, cherchez votre transformation, cherchez votre ouverture à la lumière, à la conscience, à la vérité, à la transparence, à la justice, à la paix. Et l'argent vous viendra. Elle est là, l'argent. Ici, vous pourriez la saisir. Vous pourriez la manifester dans la matière au moment où vous en avez besoin, comme Jésus a manifesté le pain et les poissons. Mais nous vous dirons, vous cherchez avec le mental, avec l'ego et avec l'émotion. Enlevez ces trois gros manteaux et nous vous dirons, vous verrez bien que le royaume vous appellera.
Il y a plusieurs peurs qui sont véhiculées comme par rapport à peur de perdre les pensions ou les rentes. Pouvez-vous me mentionner si ces peurs sont réelles?
Nous vous dirons, toute peur est réelle lorsqu'elle est dans la pensée de l'homme. Alors, si vous entretenez cette pensée, vous allez créer. La pensée, c'est le véhicule de création. Alors, si vous pensez, nous allons perdre ceci, nous allons perdre cela, et quand même vous perdriez tout l'argent que vous avez. Si vous n'avez pas perdu votre âme, qu'avez-vous perdu? Alors, est-ce que vous avez peur de perdre votre âme? Est-ce que vous avez peur de perdre votre conscience? Est-ce que vous avez peur de perdre le contact avec ce royaume? Alors, si vous n'avez pas cette peur, pourquoi auriez-vous peur de perdre des pensions? Et peut-être si vous perdriez des pensions, cela serait un grand bien pour votre âme. Observez bien dans le commentaire d'ouverture comment les gens de ce pays sont devenus des amis, comment ils sont devenus créateurs. Quelle était l'origine de ceci? La sécheresse. Alors si vos porte-monnaies s'assèchent, peut-être vous rassemblerez-vous? Peut-être apprendrez-vous l'amour inconditionnel.
J'aimerais combiner argent et spiritualité. Et je veux être chauffeur de minibus au service de l'être, des êtres humains. Est-ce que cela va débloquer prochainement?
Demain matin. Si vous y croyez. Et nous vous dirons, ne soyez pas uniquement chauffeur de minibus pour vos frères humains, soyez chauffeur de minibus pour le divin. Voyez le divin dans chaque personne qui entreront dans votre minibus. Commencez déjà à visualiser ce minibus. Voyez-le même dans votre chambre à coucher, au pied de votre lit. Voyez-vous monter dedans. Voyez les gens monter dedans. Voyez que lorsqu'ils vont monter, vous allez distribuer l'amour à tous ces gens. Comment l'univers pourrait-elle vous refuser si vous agissez ainsi? Oui, vous serez chauffeur de minibus.
Quel message que vous avez à dire à tous ceux qui attendent une aide extérieure, que quelqu'un ou qu'un être de lumière quelconque vont venir solder leurs problèmes?
Et mettre des sous dans les livres ou peut-être dans la dépense ou l'armoire de cuisine. Nous vous dirons que les êtres de lumière qui vous accompagnent, ou toutes ces aides extérieures et qui sont très nombreuses autour de vous, ne sont pas là pour vous matérialiser la matière si vous n'en avez pas besoin. Et nous vous dirons, il faut d'abord, dans un premier temps, évaluer et considérer vos besoins. Si, par exemple, nous reviendrons aux êtres de lumière et aux besoins venant de l'extérieur. Mais nous vous disons ceci. Disons que vous apprendriez qu'il vous reste 3 jours à vivre. Que voudriez-vous faire avec l'argent que vous avez? Et quelles sont les choses que vous voudriez véritablement garder encore dans votre maison? Quelles sont les choses que vous voudriez acheter? Quelles sont les dettes que vous voudriez payer? Alors, mettez-vous devant cette évidence. Faites ce jeu avec vous-même. S'il me restait 3 jours à vivre, et qui vous dit s'il vous en reste 1, 3 ou 1000? Alors, à quoi vous servent vos inquiétudes si vous ne savez pas quand la vie décidera de venir vous chercher? Pourquoi ne vivez-vous pas une seule journée à la fois, en sachant que le Père jamais ne refusera de vous donner votre pain quotidien si vous le demandez? Dans le Notre Père, il n'est pas dit « Notre Père qui êtes aux cieux, donnez-nous le pain pour 2000 jours ». Il est dit « Donnez-nous le pain quotidien ». Mais vous, vous voulez de l'argent pour l'été prochain, pour payer le voyage et peut-être aussi pour vous acheter un manteau de fourrure ou quelque élément dont vous croyez avoir besoin ou dont vous avez véritablement besoin dans 6 mois ou dans 15 mois. Nous vous disons lâchez prise, abandonnez, vivez un jour à la fois, laissez vos inquiétudes fondre, elles ne font que mal gérer votre énergie. L'inquiétude ne fait que mal gérer votre énergie. Écrivez ceci dans vos encyclopédies, au haut de toutes les pages.
Que devient à ce moment-ci le sens de la planification?
Nous vous dirons, la planification peut être une forme de sagesse. Une forme de sagesse. Mais celui qui planifie ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il sait si demain il perdra sa voiture? Imaginez que vous planifiez que vous allez économiser 20 dollars par semaine ou 50 dollars par semaine, mais que ce soir, en retournant chez vous, votre voiture est accidentée. Cela vous prendra plus que 20 dollars, n'est-ce pas? Alors, dans votre planification, ayez l'abandon. Dites, je planifie pour apprendre à gérer, et j'apprends à gérer la matière pour apprendre à gérer mon énergie, et j'apprends à gérer mon énergie pour apprendre à gérer la conscience. Et ensuite, je lâche prise et je dis à mon âme supérieure, c'est toi qui es au volant, moi je suis sur la banquette arrière, et laissez-la conduire. Et nous vous dirons, n'attendez pas que les êtres qui sont de l'extérieur vont venir faire pour vous ce qui est à faire. Ils seraient très gênés de faire ceci, parce que c'est vous qui avez écrit votre blueprint. C'est vous qui avez écrit ce que vous vouliez venir faire dans cette vie. C'est vous qui avez décidé de venir vivre ici, parce qu'il y avait la convergence cosmique, l'ouverture de la conscience et aussi 3 grandes vagues. Vous aviez cette conscience et vous avez dit, vous avez pesé le pour et le contre et vous avez dit, la convergence cosmique et l'ouverture de conscience valent plus que les 3 grandes vagues. Alors, pourquoi vous reprochez ceci?
Comment se libérer de la sensation d'être dans une impasse, que rien ne bouge, de ne pas savoir si je suis à ma place?
En épousant l'impasse. Si vous épousez l'impasse et que vous entrez dedans, elle va cesser d'être là. Mais tant que vous allez y résister, tant que vous allez avoir peur, tant que vous allez la combattre, elle reviendra. Avez-vous déjà vu le petit chien à qui vous faites peur? Ce qu'il fait, il revient en aboyant 2 fois plus fort. Et nous vous dirons, il tente même de mordre votre talon. Pourquoi? Parce que vous tentez de lui faire peur. Mais si vous vous tournez vers lui et que vous lui dites, « Petit chien d'amour, viens ici, que je te dise toute ma tendresse. » Alors il viendra, il s'accroupira devant vous. Il en est de même de l'impasse. Il en est de même de toute émotion, si vous savez les apprivoiser. Mais ceci demande une grande sagesse, un grand renoncement et une grande capacité d'être.
Dans le passé, j'ai eu un commerce. Après la vente de ce commerce, j'ai orienté ma carrière envers la relation d'aide. Après 5 ans, une offre de réouvrir un commerce dans le même domaine. Par contre, cette fois-ci, tout se fait dans l'harmonie. Je demande au chariot blanc de m'éclairer, c'est-à-dire... mais je attirerai une situation similaire à la première pour l'expérimenter, pour expérimenter le côté affaire-argent, ou ai-je à comprendre quel lien existe entre commerce et relation d'aide, argent et spiritualité? Merci.
Nous vous dirons, le commerce peut aussi être spirituel. Voyez-vous comment vous séparez et comment vous divisez? La relation d'aide, c'est spirituel. Le commerce, ça, ce n'est pas spirituel. Nous vous dirons, vous pouvez être un commerçant spirituel. Être spirituel, c'est croire à l'esprit dans la matière. C'est croire que vous êtes habité par l'esprit. C'est croire que vous avez la capacité d'ouvrir la conscience. Être spirituel, ce n'est pas poser tel geste plutôt que tel autre geste. C'est le cœur qui est spirituel, ce n'est pas ce que vous faites. Vous pouvez être spirituel en pelant les pommes de terre, autant qu'en faisant votre signe de croix, autant qu'en vendant des produits dans une boutique. Ce n'est pas ce que vous faites qui est spirituel, c'est ce que vous êtes. Et ça, cette division, vous devez l'enlever. Si vous retournez dans le commerce où vous étiez, vous avez une occasion merveilleuse de pouvoir aimer de façon inconditionnelle, de pouvoir aimer de façon impersonnelle. Parfois, dans la relation d'aide, nous vous dirons, les gens, il peut y avoir pour vous à l'intérieur un espace pour être capable d'aimer dans cet amour inconditionnel. Si chaque produit que vous le vendez comme si vous vendiez de l'amour, et que les gens ne le sachent pas, nous vous dirons, vous devenez un grand distributeur d'amour dans l'univers, et alors vous devenez amour vous-même, puisque vous donnez cet amour à vos frères. Alors, vous êtes spirituel, et si vous retournez dans ce commerce, vous n'y retournerez pas de la même façon, parce que vous avez évolué dans la conscience. Vous le ferez d'une façon très différente. Alors que ceux qui ont des emplois dans les banques ou qui ont des emplois dans les magasins ne se sentent pas forcés de quitter leur emploi pour être spirituels. Ça, c'est une grande illusion et nous vous dirons que l'ego est très heureux de cette illusion et il s'en sert à volonté.
Avec quelle attitude doit-on accueillir et payer nos factures?
Ça, c'est une question merveilleuse. Si chaque fois que vous payez vos impôts, ou vos taxes, ou vos factures, vous le faites comme si vous donniez un baiser à un enfant, comme si vous faisiez un cadeau à l'univers, et que vous disiez à l'univers, « Tu vois, je t'aime et je te donne ceci. Je sais que tu le multiplieras pour toi et que tu le multiplieras pour moi. Alors, il y aura connivence entre vous et l'univers. Mais si vous êtes en colère contre votre carte Visa qui vous a quand même bien servi, mais dont vous n'aimez pas la facture, nous vous dirons, vous allez sûrement payer de l'intérêt quelque part. Alors, ne vous étonnez pas. Voyez vos jeux, voyez toutes vos combines que vous créez, voyez toutes vos colères intérieures contre l'argent ou contre le manque d'argent. La colère contre l'argent et la colère contre le manque d'argent, c'est la même colère, c'est toujours de la colère. Et la colère engendre la colère.
Un petit peu d'eau pour éteindre ce feu de colère. On s'en aperçoit.
De quelle colère parlez-vous, André?
La colère qui engendre la colère.
Il n'y avait pas de poison dans cette eau.
J'ai manqué mon coup.
Il n'y a que vous pourriez empoisonner.
C'est ça. Alors, je suis en admiration avec ma sagesse à ce moment-ci. Merci de ce reflet. Maintenant, la prochaine question, c'est je suis dans un tourment de ma vie. Comment trouver mon chemin?
En sachant qu'il est au-dedans de vous. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin que le retour à soi-même. Et nous vous dirons, vous, les humains, vous avez très souvent besoin de l'épreuve. Vous avez besoin d'être acculé au mur pour comprendre ce que veut dire le retour à soi-même. Car vous avez des mémoires qui sont comme des crochets et qui vous attachent à l'extérieur de vous, qui vous attachent à l'ego, à l'apparence, à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser, à ce qu'est l'émotion, et ainsi de suite. Alors, nous vous dirons, vous vous créez toutes sortes de situations difficiles pour revenir à vous-même. C'est ça la voie. Et nous vous dirons, le retour à soi-même, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est possible. Le retour à soi-même, c'est la plus grande ouverture que vous puissiez vous donner. C'est la plus grande richesse que vous puissiez vous donner. C'est la plus grande abondance que vous puissiez vous donner. C'est la plus grande liberté que vous puissiez vous donner, le retour à vous-même. Alors bénissez l'impasse dans laquelle vous êtes et dites, cela est pour me faire me recontacter. De plus, demandez l'aide de vos amis de lumière. Ce qu'ils feront, c'est qu'ils ne régleront pas votre problème, mais peut-être vous donneront-ils des signes autour de vous pour que les éléments de conscience deviennent plus faciles à repérer.
Comment savoir si mon projet de la Gaspésie est bon? Et par la fin même, peut-être rassembler cette question par rapport à la peur. Si on a un projet, il y a souvent des peurs. Est-ce que ce projet-là va se réaliser? Puis est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce qu'il faut? Puis etc.
D'abord, il est difficile de répondre précisément à une question aussi imprécise. Que voulez-vous faire? Épouser la Gaspésie? Que voulez-vous faire avec la Gaspésie? Ceci est très incomplet comme question, mais nous allons vous répondre quand même par rapport à votre énergie. Nous allons vous dire que la Gaspésie est une partie de votre pays qui est en train de s'ouvrir largement et qui a besoin d'être de conscience. C'est un pays qui est plus isolé du reste du pays, c'est-à-dire des grandes villes ou des grandes métropoles où il vous est plus facile d'avoir accès à toutes sortes de services. Alors, allez dans ce pays avec confiance. Allez-y avec la certitude que votre projet est un projet de réalisation de vous-même. Si vous avez cette conscience, alors la Gaspésie vous sera sympathique et vous allez réaliser le projet. N'oubliez pas, le projet, ce n'est pas de construire quelque chose extérieur à vous. C'est véritablement de devenir plus conscient de ce que vous êtes. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas, le projet est dans la poche. La peur. Qu'est-ce donc que la peur, sinon une série de fantômes de carton qui voudraient bien avoir le pouvoir sur vous? C'est dommage, mais vous avez donné beaucoup de pouvoir à ces fantômes de carton. Vous avez permis à ces fantômes de carton de faire place à la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et nous vous dirons, ceci est bien dommageable. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de transformer cette peur en une certitude que vous êtes invincible, une certitude que tout ce qui peut arriver du dehors ne pourra jamais détruire ce qu'il y a de plus précieux, votre âme supérieure.
Depuis 6 mois, j'ai eu une cristallisation à l'épaule droite. Pourtant, je permets à la lumière d'entrer pour me transformer. Je travaille régulièrement avec moi-même, sinon continuellement. Je me suis engagé à découvrir qui je suis. J'observe mes comportements afin d'être en mesure de maîtriser qui je suis. Est-ce que la douleur à l'épaule droite est un profond malaise dû au grand changement à venir? S'il vous plaît, guidez-moi dans ce cheminement. J'ai confiance que cette douleur me mènera à une réalisation, la fusion en soi. Merci au chariot blanc.
Nous vous dirons que cette douleur est le signe d'un détachement qui n'est pas terminé. Voyez à qui vous vous cramponnez. Observez bien ceci avec toute la conscience que vous venez d'utiliser pour cerner le problème. Votre intention est pure. Elle est tellement pure, elle est tellement vraie, elle est tellement honnête avec vous-même que vous ne pouvez pas ne pas voir d'où vient cet attachement. Parfois, les attachements sont créés avec des liens que vous connaissez, des personnes qui sont près de vous, parfois aussi avec des personnes décédées, parfois aussi avec des karmas que vous avez à terminer avec des gens de qui vous avez à vous détacher. Alors prenez du temps et asseyez-vous avec vous-même et regardez à qui vous êtes attaché, qui vous ne voudriez pas laisser partir. Et alors, soyez honnête avec vous-même, procédez à ce détachement en coupant le cordon ombilical. Ce n'est pas nécessaire que ce soit votre mère pour que vous coupiez un cordon ombilical. Vous avez tellement été chacun votre tour le père et la mère des uns et des autres que vous pouvez tous couper le cordon ombilical. Faites ce travail avec sincérité et nous vous dirons que cette cristallisation se décristallisera.
Je travaille dans le domaine de la vente. Comment concilier les objectifs de vente de l'employeur et l'état de service pur?
Ça, c'est parfait si vous travaillez dans une banque. Vous avez le pouvoir de blanchir l'argent.
Dans le domaine de la vente, pardon.
C'est la même chose. Okay. Vous avez le pouvoir de blanchir l'argent. Blanchir l'argent dans le sens pur. Dans le sens de voir l'argent comme une énergie, comme une capacité d'échange, comme une capacité de faire circuler une énergie. Alors, nous vous dirons, peut-être votre employeur a-t-il des formes pensées et que vous, vous êtes un exécutant de ces formes pensées en apparence. Mais ceci ne peut pas changer votre pensée. Ceci peut devoir changer votre façon d'agir ou votre manière de vendre. Mais nous vous dirons, cela ne peut pas changer votre cœur. Si vous vous décidez que lorsque vous êtes dans la vente avec les gens, vous ne faites pas de pression, que vous êtes là pour aimer l'âme qui est en face de vous et que vous développez ce moyen de conscience, nous vous dirons, vous ne vous soucierez plus de ce que le patron exige de vous. Cependant, si ce que le patron exige de vous vous fatigue et vous exaspère, allez voir comment vous, étant votre propre patron, il y a quelque part où vous vous fatiguez, où vous vous exaspérez. Nous pourrons prendre encore une ou deux questions, après quoi nous quitterons la forme.
Alors bonsoir, merci de votre présence et de votre amour, ainsi que de votre guidance. Pourquoi lorsque nous visualisons notre corps de lumière, vous nous proposez de le visualiser comme un petit fœtus à l'intérieur du thymus? N'est-ce pas une limitation de le voir en devenir plutôt que de le voir dans sa maturité complète?
Nous vous dirons, bien sûr, quelque part, il peut y avoir une limitation. Mais lorsque nous proposons de tels exercices, nous ne proposons pas cela à une seule personne. Nous le proposons à un groupe tout entier. Et il y a des gens qui ont encore besoin de contacter le fœtus christique à l'intérieur d'eux, puisqu'ils n'ont pas encore la conscience de ce Christ total qu'ils sont. Ils n'ont pas cette conscience puisqu'ils s'inquiètent encore, puisqu'ils sont encore nourris par des peurs ou par des jalousies ou par des colères ou par des haines ou par des inquiétudes. Alors nous vous dirons, n'est pas rendu à la maturité celui qui porte encore en lui ces inquiétudes. Et ils sont très rares, les gens qui sont sur le plan terrestre actuellement et qui ont développé la totalité de leur corps christique. Cependant, si pour vous, et c'est cela que nous disions tout à l'heure, lorsque vous allez en consultation ou lorsque vous écoutez des enseignements, viendrait-il du chariot blanc ou d'Alice Bailey ou de n'importe qui d'autre? Nous vous dirons lorsque vous recevez un enseignement, amenez-la dans votre laboratoire. Gardez ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de voir que vous êtes un fœtus et que vous n'avez pas encore développé la totalité de ce Christ en vous, voyez-vous comme un fœtus. Si vous préférez vous voir comme un adulte ou dans une autre forme qui soit vaste comme l'univers, alors voyez-vous vaste comme l'univers et ne vous mettez pas de contraintes ou de limitations. Les seules limitations qui peuvent vous être suggérées, ce sont celles que vous faites avec l'enseignement que vous recevez. Alors, recevez cet enseignement, gardez ce qui est bon pour vous et rejetez ce qui ne vous convient pas. Et ceci est aussi sage que lorsque vous mangez un fruit. Lorsque vous mangez un fruit, la pulpe va se défaire, le sang va en garder une partie et l'intestin va en rejeter une autre, n'est-ce pas? Alors qu'il en soit ainsi pour tout enseignement que vous recevez. Ceci est sagesse.
Vous pouvez prendre une dernière question?
Une dernière.
J'ai besoin de savoir ce que signifie exactement amour-compassion, puisque selon le dictionnaire, entre parenthèses, qui est mental, compassion veut dire pitié, c'est-à-dire un sentiment de compassion en présence des malheurs d'autrui. Moi, je pense amour inconditionnel. S'il vous plaît, éclairez-moi. Merci beaucoup. Je vous aime inconditionnellement.
Alors, enlevez ce mot de votre dictionnaire et faites avec le dictionnaire comme ce que nous venons de donner comme enseignement. Gardez-vous la définition que vous voulez de cette compassion. Si pour vous, la compassion est un geste de tendresse en face de quelqu'un qui est dans la souffrance, que ce soit votre compassion. Si la compassion pour vous, c'est de donner de l'argent à un pauvre, donnez-la. Si votre compassion, c'est de ne pas donner d'argent à quelqu'un qui vous en demande parce que vous croyez qu'il joue la dépendance, que ce soit cela votre compassion. Alors que la compassion passe par votre cœur et vous ne pouvez pas vous tromper. Le dictionnaire, c'est différent. Alors, chers amis, avant de vous quitter, nous vous disons, ce soir, couchez-vous avec la conscience au lieu de vous coucher avec votre compte en banque. Sachez que personne ne pourra jamais vous enlever la conscience acquise, même si on pouvait vous enlever tous vos biens, même si on pouvait vous enlever la vie physique, personne ne pourra jamais vous enlever la conscience et l'amour et la connaissance et la vérité de votre être. Personne ne pourra jamais vous enlever le divin que vous êtes. Et pour cela, il n'y a pas une banque qui pourrait vous vendre ou vous payer une hypothèque à ce niveau. Alors, soyez bien avec vous-même. Sachez que si vous faites la vérité avec vous-même, si vous faites la paix avec vous-même, la paix sera avec l'univers tout entier et avec toutes les formes d'abondance. Et peut-être maintenant, pourrez-vous regarder un fruit et dire, ce fruit vaut pour moi 100 $ parce que je vois qu'il est l'abondance, qu'il me nourrit, qu'il devient moi, au lieu de dire, cette pomme vaut 50 sous. Alors, vous allez commencer à regarder avec un œil différent et comme vous allez ignorer le petit chien qui jappe, alors il viendra se frôler contre vous pour que vous puissiez le caresser. Puisse-t-il entrer dans votre maison avec toutes les formes d'abondance. Nous vous aimons de tout notre cœur, que cet amour soit une partie de votre abondance ce soir. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc. Nous remercions cette réflexion de notre conscience supérieure. Alors, suivant le besoin, veuillez, s'il vous plaît, ajuster tout au vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique au niveau de la forme qui ont pu être ralentis, afin que ceux-ci reprennent leur vibration dans le ici et maintenant. Alors que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.